Un jeune homme, non marié, il vit comme ça. Que le monde lui doit tout. Moi je. Il va être maintenant aux petits oignons. Il a une femme qui va s'occuper de lui pour tout. Il faut le dire, si possible 100 fois par jour. C'est l'âge dangereux, d'accord, 39-45. La femme, elle vieillit, 40, 45, 50, 55. Elle essaie de tenir le coup avec toutes sortes de maquillage et de trucs, de traitement de la peau pour rester jeune. Mais t'as une concurrence qui a 20 ans, chaque année, sans cesse. Et ta femme, elle a une façon d'éduquer qui n'est pas forcément la tienne. Terrible! Très difficile, très difficile. Ce cours est dédié pour la réfoachéma, la guérison rapide et complète d'un petit garçon de 2 ans gravement malade, Aaron Rouven Avraham Ben Yehudit, Bezrat Hashem. Alors la question de Jordan.
Pourquoi il y a autant de divorces?
Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de divorces? Et je rajouterais même spécialement dans le monde religieux. Parce que dans le monde non religieux, ils ne se marient même plus. Donc il n'y a pas de divorce. Mais dans le monde religieux, ils se marient encore. Et il y a énormément de divorces. Pourquoi? Ben, il me semble simplement parce que l'humanité s'habituait au luxe. On n'a pas ce qu'avaient nos ancêtres il y a une, deux, trois, quatre générations où la vie était difficile. Depuis l'enfance, et les enfants, et après les adultes, étaient habitués à la dure. Donc, quand avec le mari ou avec sa femme, ça va pas, bon, on supporte, c'est pas grave. Il m'a fait une grimace, il m'a dit un mot désobligeant. Ah, c'est pas pire que ce qu'on endure tous les jours. Mais aujourd'hui, moi, je me souviens des sucreries qu'il y avait quand on était petit. Bon, il y avait des bonbons, il y avait des chocolats, des glaces, je sais pas. J'ai vu déjà il y a quelques années, des glaces, tu as une écorce comme ça de chocolat, après tu as une glace, tu as du nouveau une autre écorce, après tu as un autre goût dedans, tu as des... C'est extraordinaire. Comme on gâte les enfants pour tout, les jeux, etc. On pense à tout ce qui peut les faire jouir. Et un jeune homme, non marié, il vit comme ça. Quoi, le monde lui doit tout. Et le monde lui donne beaucoup. Donc il est habitué à satisfaire toutes ses envies, tous ses besoins. Moi je. Et le mariage, c'est le super moi-je dans sa tête. Il va être maintenant aux petits oignons. Il a une femme qui va s'occuper de lui pour tout. Elle sera sa femme. Elle sera sa compagne. Elle va lui faire à manger. Elle va lui faire la lessive. Elle va faire le ménage. C'est un FND. Alors on lui dit avant le mariage, regarde, le mariage, c'est pas que recevoir. Il faut aussi donner. Alors elle est d'accord, il va recevoir énormément. C'est normal qu'il donne. Mais il va recevoir comme ça, il va donner comme ça. Et dans la réalité, c'est le contraire. Tu vas donner comme ça, tu vas recevoir comme ça. Et si qu'elle croit, oui.
Qu'est-ce qu'il a donné à sa femme?
Un moment. Qu'est-ce qu'il a donné? Je vais répondre.
L'amour, c'est aussi donner.
Oui, bien sûr,
Pas
mais il y
forcément
a.
des choses physiques.
Ouais, on va parler de qu'est-ce qu'il faut donner. Mais il y a des efforts à faire pour donner. Et ça, l'ego de la personne qui jusqu'à aujourd'hui a toujours reçu et n'a presque rien donné, il n'est pas habitué. D'autant plus qu'il croyait, pourquoi il s'est marié, dans sa tête, pas pour donner, pour recevoir encore plus, comme je dis, il va être aux petits oignons. Et les deux, c'est comme ça. Donc, au bout d'un moment, ils disent, comme quelqu'un m'a dit dernièrement, il m'a dit, je ne sais pas pourquoi je me suis marié. C'est que des obligations, que des choses, etc. J'étais mieux non marié. Et ça, t'en as des centaines de milliers. Centaines de milliers. Alors, qu'est-ce qu'il faut donner? D'abord, il faut comprendre que dans le couple, il y a une grande sensibilité. Parce que si je suis ici à la yeshiva, et puis il y a quelqu'un dans ma chambre qui me casse les pieds, je peux supporter, parce que ça va, et c'est pas si grave. Si ça devient grave, ben je change de chambre. Avec ma femme, c'est pas comme ça. Moi, je suis changé de femme, oui, c'est une solution. Mais pour y arriver, qu'est-ce qui se passe auparavant, c'est ce que je décide de changer, c'est que je suis sensible à ma femme. Il n'y a personne au monde à qui je me suis plus ouvert, je suis vulnérable. D'accord? Et elle va dire quelque chose de désobligeant, ou moi-même, d'accord? Et bien forcément, on va toucher le conjoint. Il sera très touché. Pas comme un ami, pas comme un parent éloigné, pas non, parce qu'on est proche. Et chaque petit bémol, chaque petite note négative, elle fait mal. Alors donner, c'est quoi? C'est supporter. Accepter. Ma femme, elle a été pas gentille, elle a, qu'est-ce que j'en sais moi, elle a crié, ou elle m'a critiqué. C'est pas agréable. Ben je m'écrase. Ça, c'est un donné, mais super important. Deux, il faut donner de l'amour, qu'on a parlé souvent ici, énormément. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus rien. On n'est pas une affaire technique de comment faire fonctionner une maison. Moi, j'amène l'argent, elle fait le ménage, etc. On est ici, il y a une mitzvah de aimer son prochain comme soi-même. C'est qui son prochain? Le plus proche, c'est mon conjoint. Donc il y a une mitzvah d'aimer. Et comment on le fait? Pas en pensant qu'on aime, en disant qu'on aime. On a parlé de cela ici souvent. Il faut le dire, si possible, 100 fois par jour. Parce qu'il n'y a rien qui va plus faire que le couple adhère, s'aime, font un que les mots d'amour. Parce que tout le monde aime entendre des mots d'amour, des mots d'estime. Donc si on s'en dit sans cesse, on va beaucoup s'apprécier. D'autant plus qu'il y a aussi quelque chose qui est un grand danger dans les couples, c'est l'habitude. Quand on se marie, on est très amoureux. Mais après, on s'habitue. Après 10 ans, c'est pas la même chose. Après 40 ans, c'est pas du tout la même chose. Alors qu'est-ce qui va faire vivre le couple? Il y a beaucoup de couples, ils font des enfants, tout ça, ils arrivent à l'âge de 40 ans, 45 ans, d'accord, 39-40. C'est l'âge dangereux, d'accord, 39-45, où le mari et sa femme commencent déjà à plus être aussi belles qu'avant. Et puis, il n'y a plus d'amour dans le couple. Alors, techniquement, on reste ensemble, on s'entend, etc. Mais il y a des appâts extérieurs très grands. Parce qu'il y a toujours des gamines de 20 ans. Toujours. La femme, elle vieillit. 40, 45, 50, 55. Elle essaie de tenir le coup avec toutes sortes de maquillages et de trucs, de traitements de la peau pour rester jeune. Mais t'as une concurrence qui a 20 ans, chaque année, sans cesse, d'accord? Celle qui avait 20 ans il y a 10 ans, elle a 30 ans aujourd'hui, mais t'en as d'autres maintenant qui ont 20 ans aussi. Et puis elles ne sont pas très pudiques. Et puis avoir un mari marié de 40 ans, c'est kiffant pour elle. Du genre, je suis quelqu'un de bien, regardez, un mari d'un triple, il est marié, hop, je l'ai tenté. Pour son ego, c'est très bien. Donc il y a un grand danger. Donc c'est super important, surtout quand on commence à être longtemps ensemble, plusieurs années ensemble, de multiplier les mots d'amour pour que le mari, plus le mari que la femme, hélas, il n'aille pas être tenté à l'extérieur. Donner, c'est tout ce qu'il peut avoir dans une maison. Comme j'en ai parlé souvent, très souvent, il y a des bagarres à la maison parce que le mari ne veut pas descendre la poubelle. Ou sa femme va demander de planter un clou, ou des choses comme ça. Et lui, il ne le fait pas. C'est aussi donné. En deux mots, il y a énormément à faire dans le sens de la volonté du conjoint. Le conjoint te dira ce qu'il veut. et toi, pas forcément tu veux, et ben tu t'écrases et tu donnes. Ça, c'est la garantie pour qu'un couple il aille bien et divorce pas. Mais vu que les gens ont un ego et n'aiment pas s'écraser, au contraire, ça les dérange, ils disent sans ma femme, je fais ce que je veux. Oui.
À l'époque, il y avait encore plus d'ego. C'était dans la communauté sépharade.
Oui, mais les gens étaient habitués à la dure.
Ils faisaient semblant de s'aimer. Ils ne voulaient pas divorcer. À l'époque, ils s'efforçaient, on va dire.
Bon, ok, ils s'efforçaient. Pour s'efforcer, on doit supporter l'autre. Donc, ils supportaient. S'ils ne supportaient pas, ils divorçaient. Il y avait aussi des divorces. Aujourd'hui, on ne supporte pas. Si ça ne va pas, un peu, il y a quelques bémols, quelques notes négatives, ça ne va pas. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. La vie continue. C'est ça la différence. Attends, si déjà, ils veulent divorcer, ils ne s'entendent pas, qu'ils divorcent. Le problème, c'est que très souvent, et les enfants. Et pour les enfants, et je m'excuse, parce que toujours quand je parle devant un public, il y a au moins la moitié des enfants dont les parents sont divorcés, donc ils sont concernés par ce que je dis. Pour les enfants, c'est un grand malheur, c'est terrible. Il n'y a pas une chose qui donne plus confiance à l'enfant que le fait qu'il voit que ses parents s'entendent. Ça lui donne une force. Il est en paix. Il est bien. S'il rentre à la maison, il voit les bagarres, et après il y a un divorce. Après, pire, papa se marie avec une autre femme, et sa mère avec un autre homme. Et il ne sait plus ce qui se passe là, il a quatre parents tout à coup. C'est très très difficile pour les enfants. Et tout dépend aussi de l'âge de l'enfant. À tous les âges, c'est difficile, c'est clair. Mais il y a des moments, hein, des âges, où c'est extrêmement, on va dire, vers 12 ans par exemple. D'accord ? Il est déjà conscient, l'enfant. Mais il n'est pas encore bâti. Donc c'est extrêmement dur de voir une chose pareille. D'habitude, les enfants de divorcer, ils finissent dans la drogue. Pas toujours, mais d'habitude. Parce que c'est le seul refuge, là. Il fume comme ça, il est bien. Mais on sait que ce n'est pas une solution. Et le pire, c'est que d'habitude, les enfants... ils réitèrent ce qu'ils ont vu à la maison. Donc quand eux vont se marier, le père était un sale égoïste, la mère aussi, on va dire lui c'est un garçon, d'accord, et bien il va réitérer les mêmes comportements qu'il a vu chez son père. Et de nouveau du schlumbeit qui ne va pas. Et comme ça pour des générations. Parce que chaque fois les enfants vont prendre l'exemple des parents et recopient. Alors je ne dis pas que c'est... à 100 000%. Mais l'enfant doit faire des efforts très grands, que quand il se marie, de s'empêcher de réitérer les comportements qu'il a vus. Et ça demande beaucoup de conscience et beaucoup de travail. Que de façon naturelle, il va refaire la même chose. Les mêmes erreurs. Quand les gens commencent à parler de divorce, nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on ne divorce pas comme ça. On doit tout essayer pour tenir, s'il y a des enfants en tout cas. Et après, si vraiment ça ne va pas, alors on divorce. Alors c'est quoi ce tout ? Ce tout, c'est faire une thérapie de couple. Trouver un grand spécialiste dans le schlumbeit, dans le couple. Et faire, d'habitude, c'est sur 6 mois, une fois par semaine, il faut débourser. Si on ne débourse pas, ça ne sert à rien. D'accord ? Et d'habitude, ça coûte assez cher. Et on essaye. On essaye de réparer. On essaye de tenir bon. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche. Si le thérapeute, il est bon et arrive à mettre les points qui sont la source des problèmes, on peut guérir le couple. Et après, ils s'entendront bien. C'est bien mieux. C'est ces solutions qu'il faut tenter. La dernière solution, c'est le divorce. Et je vous dirais d'expérience. Pas de moi, parce que bon, je ne suis pas, j'ai jamais été divorcé. On vit beaucoup de gens, nous appellent, etc. Ma femme aussi s'occupe de beaucoup de gens. D'habitude, la souffrance qu'il y a après le divorce, elle est plus grande qu'avant le divorce. Très souvent, il y a des bagarres encore entre l'ex-mari et son ex-femme. Et c'est terrible. Terrible. Et après, ils se remarient. Mais ils se remarient avec qui? Bah, très souvent, un papa qui a des enfants, il a divorcé, il se marie avec une femme qui a des enfants. Alors tout à coup, tu as le double d'enfants à la maison. D'accord? Et les enfants, ils ont un peu tourniquet, parce qu'ils sont de temps en temps chez leur mère, de temps en temps chez leur père. Maintenant, ils ont tout à coup des nouveaux frères. Maintenant, tu te maries avec tes enfants, avec une femme qui a ses enfants. D'accord? Les enfants de ta nouvelle femme, ils ne veulent pas t'écouter à toi, tu n'es pas leur papa. Et toi, tu dis, non, mais attention, je suis dans cette maison, je suis quand même le maître de maison, il faut qu'ils m'écoutent, tes enfants, ils ne vont pas t'écouter. Terrible. Et ta femme, elle a une façon d'éduquer qui n'est pas forcément la tienne. Terrible. Très difficile, très difficile. C'est clair que ma femme s'occupe beaucoup de couples qui sont comme ça, recomposés, d'accord? Il y a besoin d'une formation sur quoi on parle, sur quoi on ne parle pas, etc. Il y a un truc qui marche très bien aujourd'hui, nous conseillons de faire ça, c'est que ils se marient, mais ils habitent dans des appartements différents. Alors, de temps en temps, ils se voient, ils sont mariés, bien sûr, mais pas toujours, pas sans cesse. Surtout quand les enfants viennent, tout ça, un des deux disparaît pour pas être heurté par les enfants et pas heurter les enfants. C'est un très bon truc. Personne n'a dit qu'il fallait habiter dans la même maison. Alors on habite une partie du temps ensemble, une partie du temps pas ensemble. C'est très pratique et très très conseillé pour éviter beaucoup de problèmes qui sont des vrais problèmes très durs à régler. De faire fusionner deux couples qui sont en fait des résultats de couples qu'il y avait avant. Le mieux, pas divorcer évidemment. Comme je dis, si quelqu'un il va s'écraser, si quelqu'un il va accepter les défauts de son conjoint, les mauvaises paroles de son conjoint, qui touchent, mais il s'écrase. Et essaie de tout faire pour faire plaisir à son conjoint. D'habitude, il y a des tordus. Des fois, il n'y a rien à faire. D'accord? Des trucs de tordus, vraiment. Bon, tordus, tordus, tu divorces. Mais c'est rare. D'habitude, les gens sont bien. Simplement, ils ont été touchés. Donc, ils réagissent. Et ça fait la guerre à la maison. Au lieu qu'on soit sous la choupa, on est dans la cage aux fauves. D'accord? Terrible. Mais si on apprend à s'écraser et faire plaisir à l'autre, sans cesse, et tout enrobé de chocolat avec des mots d'amour, normalement, non seulement ça tient la route, mais c'est un bonheur. En fin de compte, si Dieu a créé le mariage sur terre, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous apprendre à écraser notre ego et à donner à l'autre. Mais quand tu fais ça, après, entre l'homme et la femme, il y a de l'amour. Ben c'est beau. C'est agréable d'être aimé. Si tu vas faire tout ce qu'il faut pour que ta femme soit heureuse, tu vas accepter tout. Ouais, tu rentres à la maison, elle te fait le tapis rouge. Ben, c'est agréable. Et vice-versa, tu le fais à elle aussi. C'est super agréable. Il n'y a aucune raison des couples qui s'aiment et qui vieillissent et qui continuent de s'aimer. C'est très très beau. Tu as un vieux, une vieille, voilà, et ils s'aiment. C'est pas beau, c'est très beau, ils sont heureux. C'est vraiment une source de bonheur très grande. Le seul ennemi de cela, l'ego. L'ego qui veut pas supporter de s'écraser devant l'autre. Et c'est clair que Hachem a créé le mariage pour ça. Comment c'est écrit? Le premier homme a été créé homme-femme, collé par le dos. Et Dieu dit, Lo tov heyot ha'adam levado, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est le Ezer Kenegdo, je ferai une aide. En face de lui, on peut comprendre contre lui. Les sages d'Israël ont dit, si il mérite, elle sera en face de lui, et elle sera Ezer, elle sera une aide. S'il ne mérite pas, elle sera contre lui. Il sépare. Pourquoi il a fait ça? C'était bien plus simple quand ma femme était dans mon dos. On était d'accord, c'est comme la main droite et la main gauche. Tu l'as vu une fois faire un premier shlombaït entre les deux, et toi tu dois faire l'arbitre entre la main droite et la main gauche. Ils s'entendent à merveille, c'est le même corps. Ben, si ma femme, elle est mon corps, c'est la belle vie. Non, il y aura. Ça va? Ouais, ça va.
Là, on est plus condamné, puisqu'elle est là, c'est pas le
Mais
choix.
c'est celle que Dieu a voulu pour toi. C'est comme si maintenant je suis condamné que la main gauche et la main droite. Vu que c'est Dieu qui a décidé que c'est fait comme ça, c'est parfait. C'était parfait. C'était parfait. N'y avait aucun problème. Ah, pourquoi Hachem il dit Lotov, ce n'est pas bon? Parce qu'Hachem a voulu que l'homme apprenne à être bon. C'est quoi bon? C'est donner. Avant, il était collé avec sa femme dans le dos. Il n'y avait pas besoin d'être bon. Il y avait 9, 7 milliards d'habitants sur la planète Terre. Quelqu'un m'a lui dit, tiens, tu veux me rendre service? Je lui ai dit, écoute, il y a 7 milliards de personnes, pourquoi tu viens me voir moi? Va le voir lui. Je n'ai pas besoin d'être bon avec personne. Je suis avec ma femme, tout va très bien. Et je reste un égoïste parfait. Dieu a voulu qu'on apprenne à casser notre ego. Dieu a voulu qu'on apprenne à être humble. Dieu a voulu qu'on apprenne à s'écraser devant l'autre. Mais pas l'autre, mon copain de chambre, ou le voisin, ou mon collègue au travail, quelqu'un de très proche, ma femme. Et pour la femme, le mari. C'est ça le but de l'opération. Lotov, ce n'est pas bon, je veux t'apprendre à être bon. Bon, bah, c'est écraser notre ego. C'est le seul moyen. C'est donner, même quand je n'ai pas envie de donner. J'ai lu hier, c'était le Rav, un rabbin qui est un des grands rabbins de Bnei Brak. Il est arrivé pour la première fois à Bnei Brak avec sa valise, il venait de l'étranger, et il devait arriver chez quelqu'un. Alors il va dans la route, il voit une personne déjà assez âgée, il lui demande, vous savez où il habite celui-là? Il dit, ouais, viens, suis-moi. Et ce type-là, le vieux, assez âgé, il prend sa valise et il dit, non, ça va, non, ça va, on fait une mission, on l'a fait complètement. Il a aidé. Et ils arrivent là-bas à l'adresse. Et, bonjour, comment tout ça? Et le type, il parle, le type un peu âgé. Alors, le type chez qui il est arrivé, lui, tu sais, c'est qui ce type-là qui t'a accompagné? C'est le Razonich. Razonich, c'était le grand de la génération. Il a vu quelqu'un dans la rue qui lui demande c'est où ce type-là, il le prend et il prend sa valise. Razonich, ça va, il manque pas de mitzvot dans sa vie. Faire du bien. Faire du bien. Faire du bien, sans cesse. C'est ça les grands d'Israël. Un grand d'Israël qui connaît toute la Torah mais qui ne fait pas de bien, ce n'est pas un grand d'Israël, c'est un nul d'Israël. Un nul d'Israël. Tous les grands d'Israël étaient des gens d'une bonté extraordinaire. J'ai eu une autre histoire hier aussi, c'est d'un fascicule qui est à la synagogue. Une fois, il y avait une simcha, une bar mitzvah, un mariage, quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de monde de la famille, tout ça. Alors ils ont dit, ok, d'abord tous les petits, ils vont faire Netilat Yadayim. C'est important, d'après l'Halakha, c'est bien qu'il n'y ait pas beaucoup de temps entre Netilat Yadayim et le Motsi. Donc pour que les adultes puissent faire Netilat Yadayim juste avant le Motsi, alors que tous les enfants aillent d'abord, que tous les petits aillent d'abord se laver les mains. Alors Ben Sion Abba Shaul y va avec les petits. Mais les Kvodara, c'est pas pour vous maintenant, c'est pour les petits. Et bon, si je suis un petit. C'est un grand d'Israël, ce type-là, il était énorme. Baba Meir, c'est le plus grand qui ait jamais eu, je crois, le dernier siècle, d'accord. Il a dit, tous les grands d'Israël ont franchi le seuil de ma porte, aucun a égalé Chacham Ben Sion, le Rav Ben Sion. Il était énorme. Et lui dit, je vais avec les petits. C'est quoi ça? Ça, c'est de l'humilité. C'est ça les clés pour être bon. C'est ça les clés pour pas divorcer. Et moi, j'ai l'habitude de dire l'humilité, Zichrona Livracha, de mémoire bénie. Tu connais des gens humbles aujourd'hui? Si tout le monde est orgueilleux. La question, c'est combien? Très orgueilleux, très très orgueilleux, juste un peu, juste à moitié. Des gens humbles, c'est très très rare. Mais c'est la clé. Et je vais vous dire quelque chose, la clé où on peut avoir le mieux cela dans la vie, la meilleure école, c'est ici à la Yeshiva. Parce que tu vis avec des gens. Tu peux être bon, tu peux être humble, ou tu peux être au contraire, tu peux être égoïste et orgueilleux. Et ça se travaille ici. Voilà, Bezrat Hashem, on vous souhaite à tous un mariage réussi, sans divorce, et un bon travail à la Yeshiva. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.